Vous écoutez RTL.
Maison, jardin, cuisine, brocante.
Avec Bernard Poirette sur RTL.
9h39.
Maison, jardin, cuisine, brocante. Ce matin, Laetitia, Thierry, Sébastien et Glantine. Mes amis, bonjour.
Bonjour, bonjour Bernard.
Bonjour à tous.
Laetitia Nallet, nous partons bien volontiers avec vous dans l'Yonne, à Saint-Sauveur en Puisée exactement, pour visiter une maison, mais pas n'importe quelle maison.
Ah oui, une maison que vous connaissez peut-être si vous avez déjà lu Colette, car l'auteur a décrit dans de nombreux ouvrages la maison de son enfance.
Oui.
Une maison bourgeoise de 13 pièces, au volet gris de fer, avec un jardin que Colette considérait comme un Éden.
Elle a vécu là-bas jusqu'à quel âge, Colette ?
Elle y est née, elle y a vécu jusqu'à ses 18 ans. La maison est ensuite passée de main en main jusqu'à être rachetée en 2011 par l'association La Maison de Colette. Mmh. Cette association s'est battue pour faire revivre cette demeure et surtout reconstituer avec précision le décor familial de Colette que vous allez pouvoir visiter ce week-end, car aujourd'hui et demain, ce sont les journées du patrimoine des métiers d'art.
Et pour la réhabilitation, ils se sont appuyés, j'imagine, sur les bouquins, non, Laetitia ?
Beaucoup. Colette raconte par exemple que dans la chambre de Sido, sa maman, il y avait des rideaux de perse fleurie, un miroir doré, deux lits jumeaux largement espacés et que sur la table de nuit, on trouvait une chocolatière en argent pour l'araignée qui descendait et empoignait de ses huit pattes le bord de la tasse, se penchait tête première et buvait jusqu'à satiété. Ça, c'est un extrait de Ma mère et les bêtes. La maison a été restaurée par des spécialistes des monuments historiques et des artisans qui ont travaillé avec les techniques et les matériaux de l'époque. Alors par exemple, pour les fenêtres, en verre soufflé, ils ont fait appel à la dernière verrerie capable de recréer ces vitrages imparfaits dans lesquels la lumière se reflète d'une façon particulière. L'idée était d'avoir la même vue qu'avait Colette à l'époque.
C'est génial.
Alors, un truc qui m'intrigue, Laetitia, comment est-ce qu'ils ont fait pour retrouver les couleurs, les motifs, des papiers peints d'époque ?
Elle les décrivait.
Ah bah oui, voilà, toujours en s'appuyant sur les textes de l'écrivaine, bien sûr, mais aussi grâce aux stratigraphes qui ont gratté les murs pendant plus d'un an pour retrouver les couleurs d'origine. Vous verrez comme ça dans un coin des témoins, c'est-à-dire que des fragments de papier peint ou de la peinture initiale qui ont ensuite été reproduits sur les murs le plus fidèlement possible.
C'est un boulot.
Et le papier peint, il a même été ensuite collé avec de la colle de lapin. Incroyable, hein ? Pour les rideaux en damas, c'est un tisseur lyonnais qui a travaillé. Ils ont tous été cousus à la main. Dans le vestibule, c'est le faux parement en pierre imitation marbre qui a été recréé par un peintre décorateur. Les travaux de réhabilitation ont duré 3 ans.
Et donc, cette maison de Colette se visite aujourd'hui et demain ?
Oui, seulement. Alors... Non, pas seulement. C'est pas un musée, c'est vraiment la maison de Colette. Hein. C'est-à-dire que la table est mise, il y a des fleurs dans les vases, les lits sont faits. Aujourd'hui et demain, on visite d'une manière plus particulière. On visite avec les artisans qui ont redonné vie à ce lieu.
Top, ouais.
Et ça, c'est passionnant de les écouter raconter comment ils ont retrouvé les traces du passé de cette maison. En plus, il y aura plein d'anecdotes sur la vie de Colette, évidemment. Dans la bibliothèque de son père, par exemple, où il s'enfermait pour écrire, on a retrouvé à sa mort son œuvre, 15 livres reliés du capitaine Colette, qui était totalement vierge.
On peut la visiter aujourd'hui et demain de 10h à 14h.
À 10h et à 14h.
À 14h.
Demain
et
dimanche. Pour s'inscrire, c'est maison-de-colette@orange.fr ou vous appelez le 03 86 44 44 05.
Bien entendu, vous n'avez rien noté, donc vous allez vous débrouiller en fait tout seul, pour tout vous dire.
Sur le site
Mais en tout
internet.
Cas, ça vaut le coup, je pense, d'essayer d'y aller parce que je pense que c'est intéressant.
Ah, c'est super
Thierry,
bon.
Thierry Denis, pour les jardiniers en quête de plantes un peu originales, c'est assurément le bonheur aujourd'hui et demain avec la fête des plantes rares de Saint-Jean de Beauregard.
Oui Bernard, deux fois par an, en avril et en septembre, le château de Saint-Jean-de-Beauregard,
très enthousiaste.
Voilà, qui est à une demi-heure au sud-ouest de Paris, dans l'Essonne, accueille tous les mordus de jardin. Et c'est l'occasion unique pour dénicher la plante insolite dont vous rêviez, comme le rhododendron Macrocépalum.
Macrocépalum,
des pépinières carfandoles dont les fleurs roses flashy ressemblent à la chevelure déjantée d'un punk ébouriffé.
C'est chouette, c'est génial. Oui. Et les fans de potager, ils trouvent leur compte aussi ?
Oh que oui, tomates anciennes, légumes perpétuels, graines de tous les pays, vous n'avez que l'embarras du choix. Je ne saurais trop vous recommander la plante fromage de la pépinière Hortiflore Bureau.
C'est quoi ça ?
Originaire du Népal, elle n'en dégage pas moins un délicieux parfum de camembert bien de chez nous.
Mais en plus, elle a une gueule de camembert.
Mais oui, mais
elle est pour la faute.
Voilà. Extra pour mettre du peps à vos salades.
Et vous Thierry, qu'espérez-vous y trouver cette année à Saint-Jean ?
Un chardon-marie, Bernard. Son feuillage est magnifique. Ce chardon-marie est la perle des jardins des simples de monastère. Charlemagne lui-même en faisait grand cas. La légende veut que, poursuivie par les soldats d'Hérode qui tuaient les nouveau-nés, la Vierge Marie aurait caché l'enfant Jésus sous un buisson de chardon ordinaire. Elle lui aurait ensuite donné le sein. et quelques gouttes de lait seraient tombées sur le feuillage. Depuis, ce chardon a des feuilles ravissantes, veinées de blanc.
Ah oui, ça qu'est-ce fait vraiment, ça fait l'air.
D'où son nom, le chardon. Ah oui.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il a d'autre comme avantage, Thierry, ce chardon ?
Il Sébastien. Mange. Exactement.
Bah, j'espère.
C'est la plante des gourmets.
Ah bah voilà.
Alors, c'est pas appétissant pourtant.
Ces feuilles se cuisinent comme du cardon.
C'est très bon le cardon. Très délicieux.
Ces fleurs en bouton rivalisent avec le plus fin des artichauts.
Bien.
Et les graines grillées sont top à l'apéro.
Ça se cultive comment, Thierry ?
Le plus simplement du monde. Je vais planter un chardon Marie. Il va fleurir, monter à graines et mourir. Chaque graine donnera un joli plant.
Tel le phénix.
L'an prochain, j'en mangerai plein en gardant juste quelques plantes qui donneront à leur tour des graines et tout recommencera.
C'est un cycle éternel en quelque sorte, Thierry Denis. Vous vous mettez toutes les infos sur rtl.fr, bien sûr, hein, sur la fête des plantes de Saint-Jean de Beauregard pour y aller, comment y aller, combien ça coûte, tout ça.
Maison, jardin, cuisine, brocante sur RTL.
9h48.
La suite de Maison, jardin, cuisine, brocante avec vous, Sébastien Demorand. Depuis peu, tout le monde le sait, nous sommes entrés dans le printemps. Depuis le 20 mars.
Ah oui, tu parles, Charles, oui, c'est ça. Ah oui.
Ça fait 2 semaines.
D'habitude, Bernard, on dit le printemps, c'est une des saisons, en tout cas pour ce qui me concerne, les plus agréables qui soient en matière de cuisine, parce que, vous savez, on ressort tous les petits légumes qu'on adore, les petits pois, les fèves, les asperges. Mais avec cet hiver pourri qu'on a vécu cette année et ce début de printemps pourri, eh ben, il va falloir encore attendre quelques jours pour que les marchés soient vraiment bien approvisionnés. En attendant, voici tout de même une recette, je vais être gentil, de début de printemps, puisqu'on va se faire une petite soupe.
Mais c'est plus de saison du tout. Alors on va faire une soupe à la grimace.
Allez, Églantine, c'est la toute dernière soupe de la saison. Classique, mais vraiment pas fréquente sur toutes les tables. Le bon vieux velouté, les amis. Le potage aux fans de radis.
Je ne l'ai jamais fait, je ne suis pas sûre d'en avoir jamais mangé.
Car ça rappelle mon enfance.
Exactement.
J'en avais très souvent avec ma maman. Et en plus, c'est très bon pour la santé.
Exactement, du fer et des vitamines, Thierry. Ah bon ? Et puis surtout, ce qui est génial avec les fans de radis, c'est qu'elles ont ce petit goût un peu mystérieux, un peu inattendu. Alors c'est toujours marrant de servir ça à l'aveugle, à vos convives, sans dire ce que c'est. Il faut que les fans soient ultra fraîches pour que le velouté soit délicieux.
Surtout pas avec des feuilles traitées.
Ah non, 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 du bon radis.
Du bon radis bio.
Bio, pas traité. Les fans, c'est très important qu'elles soient bien vertes, bien fermes, pas jaunies. L'idée, c'est de faire un velouté pour 4 personnes. Pour ça, il faut les fans de 2 bottes de radis que vous allez bien rincer. 2 pommes de terre moyennes déjà cuites. Un petit oignon, un petit peu de beurre, évidemment, il en faut toujours. Un petit bouillon de volaille léger, léger. Vous prenez un bouillon cube bio également. Voilà, vous connaissez le mot d'ordre. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Rien du tout, un peu de crème fleurette. Quelques petits brins de cerfeuil et basta, terminé.
Mais ça vraiment, c'est si facile que ça.
C'est hyper simple.
Mais oui, il lève le doigt poliment pour avoir sa crème. Alors, les amis, écoutez bien, j'insiste. Les fans très soigneusement rincés. Les radis, vous les gardez évidemment pour l'apéro, bien croquant, avec une petite rondelle de saucisson et un petit coup de blanc.
Voilà.
Alors, l'oignon coupé finement, vous le faites revenir au beurre, vous ajoutez vos petites patates déjà cuites. Les fans, vous faites rapidement revenir. Faut pas que ça cuise trop longtemps, attention. Hein. Allez, 250 ml peut-être, un petit coup de bouillon de volaille, sel, poivre, 10 minutes même pas, petit bouillon. Et puis vous allez tout simplement mixer ça très finement avec le mixeur plongeant. Ajoutez la crème fleurette pour Thierry. On mélange, on rectifie en sel évidemment. Et c'est prêt. Et vous mettez tout simplement au dernier moment là-dessus vos petites pluches de cerfeuil qui vont amener quelques notes un peu fraîches, un peu anisées, agréables, printanières.
Et ça a bon goût au final.
Absolument.
C'est meilleur.
Moi, j'essaye ce week-end.
C'est vraiment fabuleux, Bernard. Ça vaut pas cher et c'est délicieux.
Exactement. Aujourd'hui, Églantine, nous allons parler cadre.
Mais oui, pas des cadres en bois, pas des cadres dorés, le cadre de la loi.
Oui, bien sûr.
Mais oui, ce printemps, c'est le coup d'envoi de pas moins de 50 000 brocantes, raideries, braderies et autres vide-greniers qui vont avoir lieu jusqu'à l'automne prochain partout en France. Alors, vu le temps qu'il fait, on va commencer à s'intéresser un peu à nos droits en matière de brocante. Il y a plein de rappels importants à faire. C'est un univers merveilleux, surtout dans le déballage, qui intéresse de plus en plus de monde, mais je crois qu'une mise au point s'impose.
Oula, faites-la. Moi, c'est trop tard. Hein. J'ai fait le tri l'année dernière, j'ai fait une brocante, j'ai tout vendu.
Ah ben, c'est bien, bravo.
Vous
félicitations.
Aviez des bonnes choses à vendre.
Ouais. Mais alors, vous le faites comme plus d'un million de particuliers chaque année. Ils monnayent pour quelques euros la location d'un ou plusieurs mètres linéaires et se transforment en commerçants d'un jour sur les vide-greniers. Je devrais plutôt dire en commerçants de 2 jours, car la loi est très stricte sur le sujet. En tant que non-professionnel, vous ne pouvez participer qu'à 2 manifestations maximum comme vendeur par an et par année civile.
Ah, mais je savais pas ça.
Pas plus, et encore pour vendre uniquement des objets personnels et usagers. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à déclarer vos gains au fisc. La mauvaise, c'est que si vous dépassez votre quota de participation, vous risquez d'être considéré comme faisant du commerce illicite et vous vous exposez alors à une sanction qui va jusqu'à plusieurs milliers d'euros d'amende, voire à de la prison.
En tant que consommateur, au moins, Est-ce que cette fois, j'ai des droits ?
Oui, en tant qu'acheteur, vous avez des droits, bien sûr. Il va vous falloir, dans un premier temps, identifier le statut de votre vendeur. Si c'est un amateur, vos droits sont minces. Oui, hein. Ces objets sont vendus en l'état, c'est-à-dire sans garantie. Donc là, il n'y a qu'une seule chose à faire, vous scrutez, vous testez avant d'acheter, surtout pour les appareils électriques.
Et par contre, si le vendeur est professionnel ?
Alors là, vous êtes beaucoup mieux protégé par la loi. Là, vous bénéficiez de la garantie légale de conformité. Si une fois que vous êtes rentré chez vous, le produit ne fonctionne pas, alors que le vendeur vous a bien dit le contraire, vous pouvez demander au vendeur de vous le remplacer ou de le réparer si c'est possible.
Ouais. Ou demander une réduc.
Alors voilà, vous pouvez demander une diminution du prix, voire son remboursement. Ouais. La meilleure sûreté, c'est quand même, je l'ai déjà dit, de ne pas hésiter à demander une facture lors de votre achat, surtout en cas d'un objet de valeur.
Pourquoi ?
C'est hyper important. Faites-y inscrire une description détaillée qui vous sera très utile en cas de réclamation. Et je vous le garantis, les brocanteurs professionnels ne s'offusquent pas d'une telle demande. C'est d'ailleurs un bon signe. Si un brocanteur vous dit pas de facture, honnêtement, méfiez-vous.
Pour les objets chinés sur Internet, on a un recours ?
Alors là encore, si le vendeur est un professionnel et uniquement dans ce cas, vous avez droit au même délai de rétractation que pour les objets neufs, c'est-à-dire au moins 14 jours à compter de la date de réception du bien acheté. Mmh. C'est une bonne chose. Vous savez, aujourd'hui, les vendeurs professionnels sont quand même très bien identifiés sur les sites, même comme Le Bon Coin, Price Minister et tout ça, on les voit très bien. Attention tout de même, il y a des objets qui ne sont pas concernés par ce délai, comme les produits culturels, les CD, les DVD, les jeux vidéo, et les produits vendus aux enchères non plus.
Et alors, on veut réclamer, on fait comment ?
Alors, vous devez impérativement envoyer, c'est compliqué, un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les délais évidemment, au vendeur, pour lui dire votre décision. Il n'y a pas besoin de justifier cette décision. L'objet, lui, doit être retourné dans son emballage d'origine et en bon état, et ça, c'est à vos frais, évidemment. Non. Une fois que vous avez tout ça, maintenant vous le savez, vous n'avez plus qu'à chiner quand il fera beau, bien sûr.
D'accord. En tout cas, moi, j'ai noté qu'on n'a droit qu'à deux brocantes en tant que particulier par an.
Ouais, deux vide-greniers.
En plus, il y a des contrôles sur les brocantes.
De plus en plus.
J'ai souvent vu des agents qui viennent contrôler.
Très bien.
Si effectivement, vous êtes pro ou pas un pro. Merci beaucoup, Églantine. Mes amis, je vous souhaite un très bon samedi, quelle que soit votre activité.
À demain,
sans faute. Et dans six minutes exactement, eh bien, Yann Bouchery sera là pour le journal, mais auparavant, auront officié dans cet ordre-là Petit Demange, Perrault, qui est dans les volcans, et Quentin. Quentin, bien sûr, pas Quentin Vinet, Quentin.
Merci.